quand même. Alors rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas 30% qui vont déménager, mais enfin, même si c'est seulement 10%, moi j'aimerais bien voir la tête des Bretons quand tous les Marseillais voudront aller jouer chez eux. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais ça questionne. Et puis 37% qui aimeraient tout simplement changer d'appartement ou changer de logement parce que leur logement n'est pas apte à faire face à ces conditions. On sait, hein, la rénovation thermique, c'est un enjeu majeur, mais là, on commence à avoir des chiffres qui nous disent que c'est plus qu'un enjeu. C'est un besoin de migration sociale. Je vous montre, alors je vous demande pas de lire tous les chiffres, je vous demande juste de regarder deux, trois notions, notamment celle-ci. 47% des gens ont moins envie de travailler à la chaleur, mais l'arrêté, c'est qu'ils déclarent avoir moins envie, mais que c'est plus que ça. On a 60% de gens qui dégradent leurs conditions de travail à la chaleur. Après, des petits chiffres aussi qui sont quand même intéressants. 27% n'arrivent plus à se concentrer. 24% ressentent des irritabilités majeures. Et tout ça, c'est chiffré dans quelque chose qui est assez simple. Ça a été montré par The Lancet en 2024. On a perdu en 2023 512 milliards d'heures de travail uniquement en raison de la chaleur dans le monde. Donc ça veut dire que cette notion d'avoir moins d'appétence au travail dans les conditions de chaleur, elle se traduit très concrètement par l'incapacité de travailler dans certaines conditions de chaleur. Donc ça, je vous invite à y réfléchir parce qu'en réalité, ça représente pour la France l'équivalent de 10% de perte d'heures de travail dans les conditions de haute chaleur, notamment pendant les canicules. Ma question est simple, puisque vous êtes dans des équipes municipales peut-être ou face à des entreprises, combien de temps pouvons-nous résister à une canicule où on réduit de 10 à 20% notre efficacité économique et de travail? Je ne suis pas économiste, mais pas longtemps. Et tout ça, ce n'est pas des chiffres qui arrivent quand il fait déjà 50 degrés. Les seuils de tolérance humains, avant de dégrader ses fonctions de compétence, c'est 24 degrés de moyenne sur 24 heures et 32 degrés en pic. À partir de 32 degrés de température, tous les systèmes dont je vous parle commencent à se dégrader. Et à partir de 24 heures à 24 degrés de moyenne, vous avez de la dégradation. Et ça, c'est des choses qu'on commence à connaître de manière récurrente dans nos sociétés et qu'on va connaître de plus en plus dans le mandat qui vient. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas juste des projections à très long terme de 2050, 2100 qui ne vous concerneraient pas. Moi, j'ai quand même pas mal de gens qui ont plus de 60 ans qui viennent me voir et me disent « Ah, mais moi, c'est pas pour moi, hein, tout ça. » Ben si, c'est pour nous, quel que soit notre âge aujourd'hui. C'est actuel. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Les élus vont avoir quand même un petit rôle parce qu'il y a une énorme attente publique pour faire face à ça. Hein. 86% des gens aimeraient plus de campagnes de prévention. 86% pensent que les plans d'adaptation mis en place par leur mairie ne sont pas suffisants. Et 23% sont satisfaits de ce que font les autorités par rapport à ça. Quand vous avez moins d'un quart de la population qui est satisfaite des mesures prises, ça demande à se poser quelques questions d'exemplarité et de travail. Donc ça, c'est vraiment un chiffre que j'invite à réfléchir. Alors, on est plutôt très bon en France parce que la moyenne européenne, c'est 19%. Donc on est 4 points au-dessus. Hein. Mais en fait, c'est quand même que 23% des gens qui sont en accord avec les actes politiques liés au climat. Donc, je pense que ça veut dire quelque chose. On ne va pas tout résoudre en quelques minutes quand on sera nouvel élu ou député ou sénateur ou quoi que ce soit, mais ça vous demande quand même de réfléchir à ce que je montre de mes actions et de ce que je fais en tant qu'élu. Je vous passe un peu tous ces chiffres parce que ce n'est pas tellement la question. Malheureusement, en France aujourd'hui, plus de monde pense qu'il faut arrêter de chercher à atténuer pour chercher à s'adapter. 58% considèrent qu'on doit préparer plus que réduire. Bon, ça, c'est aussi des messages qu'on va devoir redéfinir et re-questionner sur la capacité de faire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'adaptation humaine à 50 degrés. Il y a une adaptation à éviter les 50 degrés. C'est la seule possible pour notre futur. Et enfin, et c'est peut-être le plus important pour nous, et je vais passer dans la deuxième partie de la conférence par rapport à ça, 72% des gens voudraient agir, mais 25% le font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malheureusement, en tant qu'humain, on le sait de manière scientifique aujourd'hui, vous le savez sans doute, avoir une information ne fait changer personne. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir l'information, elle est nécessaire, mais clairement, elle n'est jamais suffisante pour entamer un changement comportemental. Donc il faut aujourd'hui réviser aussi notre manière d'aller auprès des citoyens et des citoyens par rapport à ces notions-là. Oui, il faut avoir les données scientifiques. Oui, il faut les transmettre. Mais non, ce n'est pas un rapport qui fera changer qui que ce soit. Donc, on va devoir questionner ça. Et pour ça, Je vais regarder l'heure parce que sinon je vais me faire engueuler. Ouais, j'ai encore 3 heures, c'est bon. Je vais aller un peu plus vite sur la deuxième partie, c'est pourtant la plus importante, mais le temps manque et si vous voulez, on pourra en discuter après auprès du Climate Sense. Ça, c'est l'image d'un cerveau. C'est un système qui a plein de neurones, alors c'est une image. Hein. Et puis, il y a des panneaux indicateurs. Ces panneaux indicateurs, on les crée pour pouvoir résoudre des problèmes sans utiliser d'énergie. Marcher ne me demande pas d'énergie cognitive parce que je l'ai indiqué en panneau indicateur dans ma première année de vie. Eh bien, le changement, il va faire disparaître ces panneaux indicateurs. Soudainement, il va falloir recréer des nouvelles compétences. Et ça, pour le cerveau, c'est très compliqué. Ça demande de l'énergie, ça demande de créer des neurones, des synapses, ça demande du sucre, du glucose, enfin, plein de trucs. Donc, le cerveau, il n'aime pas vraiment le faire parce que ça le fait chauffer. Or, il n'aime pas chauffer, donc il essaie de ne pas le faire. Et donc, il va devoir faire un calcul assez simple. D'abord, est-ce qu'il va considérer la situation comme réelle? Est-ce qu'il va accepter la situation? Et malheureusement, on voit bien que ce n'est pas toujours simple. L'acceptation, c'est le premier intrant du changement. Et ensuite, on a la capacité qu'on a de, une fois que j'ai accepté une nouvelle situation, d'agir. Et donc, j'insiste un peu sur l'acceptation parce que j'entends encore très souvent dans les conférences, les discours, les machins, de dire « Ouais, mais si on avait fait ça en 1990 ou si on avait fait ça il y a 3 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. » Mais quelle perte de temps! Excusez-moi, hein, c'est peut-être vrai, mais quelle perte de temps! La seule question qu'on a à se poser, c'est « Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je construis pour demain ?» Le reste n'a aucune importance. Donc maintenant, on va devoir le construire. Et pour ça, le cerveau, ben, il est encore une fois fragile, puisqu'il n'a pas envie d'utiliser trop d'énergie, il va faire un calcul. C'est dramatique, mais c'est quand même vrai, c'est le calcul du coût-bénéfice. Est-ce que le coût énergétique demandé à mon cerveau justifie le bénéfice que je vais obtenir? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et accepter aussi. On ne change pas si le changement qu'on nous propose paraît moins bien que ce que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas cognitivement possible. C'est peut-être dur à comprendre, c'est dur à admettre. On aimerait que tous, on soit capable de changer pour le bien de la communauté, tout ça. Ben non. Un cerveau, il regarde si ce qu'il va construire lui paraît plus intéressant que ce qu'il avait avant pour le faire. Ça veut dire que nous, dans nos manières de penser le changement, on doit d'abord réfléchir qu'est-ce qui donne envie aux gens. Faire peur, ça ne marche pas. Raconter des chiffres, ça ne marche pas. Quel est le récit, la vision, l'envie qu'on donne aux gens pour qu'ils aient cette envie de générer des compétences nouvelles en faisant l'effort nécessaire pour le faire. Cette vision-là, on peut l'avoir en tant que personne, mais c'est surtout les entreprises et les élus qui la donnent. Qu'est-ce que vous donnez aux gens pour leur donner l'exemple que... Un truc tout bête, hein, le fait de posséder un objet qui équivaut au bonheur tel qu'on le définit aujourd'hui a été conceptualisé en 1904. Avant, ça n'existe pas. Le bonheur n'est pas relié à la possession. Et on a conceptualisé la nécessité de relier le bonheur à la possession par des problèmes économiques. On doit simplement recréer un discours, on va devoir le faire, de redéfinir l'émotion liée à un changement. Parce que ça, c'est la deuxième information fondamentale. Puisque l'information ne fait pas changer, ce qui fait changer, c'est l'information émotive que vous ressentez. Vous ressentez une émotion, vous changez. Vous ne ressentez pas d'émotion, vous ne changez pas. Et ça, c'est fondamental aussi parce qu'on a tendance à penser qu'on met des élèves dans une classe, on les installe sur des chaises, on leur donne plein d'infos pendant plusieurs années pour leur dire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire et tout. Mais où est l'émotion dans le système scolaire? C'est une question qu'on peut se poser, mais je vous la pose parce que j'ai la réponse. Elle n'existe quasiment pas dans nos systèmes actuels. La coopération se crée par exemple parce qu'on voit le visage de l'autre. Si je vous vois votre visage, je peux coopérer avec vous. Bon, ben, quand on a des élèves qui sont l'un derrière les autres, où est la coopération, par exemple? Enfin, c'est des petites choses auxquelles on pourrait commencer à réfléchir qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, quand même. Et donc, puisque les émotions sont la clé, eh ben, on a démontré, et c'est assez simple à comprendre, que les émotions positives permettent des changements plus rapides que les émotions négatives. Voilà. On a cru pendant longtemps qu'il fallait faire peur aux gens pour qu'ils changent. Eh ben non. Il faut leur donner une envie. Ça, c'est la clé première. Ensuite, il y a un tout petit sujet, c'est est-ce que nos cerveaux ont la capacité de le faire? Je vous montre un petit schéma qui montre la quantité d'injonctions temporelles qu'on reçoit dans le cerveau. Une injonction temporelle, c'est à chaque fois qu'on reçoit une information que le cerveau doit traiter qui est majeure. Je ne vous parle pas des petites informations, mais des informations majeures. On en recevait 5 à 6 en 1800, on en reçoit aujourd'hui 2800 de moyenne. Ma question est, votre cerveau est-il capable de générer autant d'informations en si peu de temps? Eh bien, la réponse, elle n'est pas positive. On a mis des gens dans une grotte pour voir ce qui se passait quand on les coupait de la formation extérieure. Eh bien, le résultat, c'est qu'en 40 jours, on a 11 à 12% des systèmes cognitifs qui se redéveloppent avec les zones de l'imaginaire, de la projection mentale et du désir qui se redéveloppent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos systèmes informatifs actuels, on génère un frein à la capacité imaginaire des gens parce qu'ils n'ont plus l'espace cognitif pour le faire. La cognition mentale aujourd'hui, avec 42% de gens qui se déclarent en déficience mentale, ce qui est quand même gigantesque, est un sujet majeur qui revient à la notion du temps. Et j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez le temps de changer? Est-ce que vous avez le temps d'y penser, de concevoir les besoins et de les mettre en œuvre? Dans les entreprises, dans les collectivités, dans la vie de tous les jours, dans votre famille, est-ce que vous prenez le temps de concevoir le changement que vous avez besoin de faire? Eh bien, dans la société aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup le cas. Donc, on a un vrai sujet de l'accélération du temps permanente. On a toujours besoin d'aller plus vite, plus loin, plus vite, plus loin. C'est un vrai sujet. Mais surtout de comment est-ce que je pense clairement parce que je donne du temps à la pensée. Si vous voulez mettre en place un plan de changement dans vos collectivités ou dans vos entreprises, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme plan, aussi génial soit-il. Si vous n'avez pas conceptualisé le temps et l'énergie nécessaire pour qu'il soit déployé, il ne sera pas déployé. 70% des plans d'adaptation ne sont pas déployés dans les entreprises ou des collectivités. Je pense, entre autres, je n'ai pas d'explication à ça, mais entre autres parce qu'on n'a pas défini le temps nécessaire et l'effort nécessaire. Donc, il faut du temps pour penser et pour agir. Je passe un peu vite sur tout ça, mais ça veut dire qu'on doit d'abord former et accompagner à redéfinir ces notions-là. Encore une fois, redéfinir l'image qu'on veut pour le futur, redéfinir l'image qu'on a besoin de construire. Des pays qui ont subi des drames majeurs, comme le Rwanda, la Corée du Sud, le Canada, la Finlande et d'autres, ont changé leur structure sociétale en 5 ans parce qu'ils ont changé d'éducation des 5-12 ans. C'est la base même de la construction mentale. 5-12 ans, c'est le moment où vous inculquez les nécessités fondamentales, sociétales, aux humains. La question est simple. Est-ce qu'on a l'éducation qui nous est aujourd'hui fonctionnelle en France? Personnellement, je ne le crois pas, mais ça, chacun répondra comme il le veut. On a aussi besoin de comprendre quelle est la capacité d'adaptation aujourd'hui de nos sociétés. Nous, on a développé des indices qui permettent de déterminer à quelle vitesse une personne et un groupe humain est prêt à changer et quel effort il est prêt à faire. Donc, on est capable aujourd'hui de déterminer de manière cognitive, donc pouvoir paramétrer la vitesse à laquelle on doit implémenter les changements. Si vous allez trop vite et que les gens ne veulent pas changer, vous plantez le changement. Si vous allez trop lentement alors que les gens ont beaucoup de désir de changer, ben vous plantez aussi le changement. Donc, on a besoin aujourd'hui de définir la capacité et l'envie du changement auprès des populations. Et enfin, on a besoin de ces émotions sensorielles. Alors, il y a plein de manières de le faire. Vous avez tous vos méthodes. Nous, on a développé le Climate Sense pour faire comprendre le climat du futur. Et encore une fois, sur les 4000 personnes qui l'ont vécu aujourd'hui, 62% des personnes à la sortie prennent des décisions de transformation. C'est aujourd'hui le taux le plus important d'expérience vécue pour faire changer et transformer les situations. Et je terminerai sur cette image d'ours. Ce sera la fin de cette conférence parce que je vais vous raconter une petite histoire qui, à mon sens, devrait faire réfléchir toutes les personnes qui ont des personnes à diriger. Cet ours, un ours que j'ai bien connu parce que j'étais avec 8 personnes au Spitzberg. On était en train de faire une étude sur le pollen, c'est pas très important. Et on était un peu déconcentrés, on était un peu inattentifs, on était assez contents de ce qu'on était en train de faire sur le travail scientifique. Et en marchant, soudainement, un ours s'est levé devant nous. Il était à 10 mètres de nous, donc à peu près le milieu de la salle. Il était couché dans la dépression que vous voyez derrière lui. Un ours à 10 mètres, c'est vraiment près. On aime beaucoup les ours, mais bon, pas à cette distance. Et là, vous savez que l'ours, il n'est pas content parce qu'il vient de se réveiller. Vous avez une équipe qui, forcément, n'est pas très contente non plus parce qu'elle se trouve face à un ours. Et vous savez que toutes les méthodes habituelles de parer un ours, c'est trop tard, en fait. Il est là, on ne peut plus faire machine arrière, on ne peut pas lui dire « Recouche-toi, on la refait, ça ne marchera pas. » Et on sait bien que avoir des flares, si j'envoie un flare gun, donc c'est une fusée rouge, soit il ira derrière lui, soit devant lui, ça va le faire paniquer, il va charger, bref. Et je me rends compte à ce moment-là que la seule solution, c'est de faire un truc qui est complètement aberrant et que lui n'a jamais vu, c'est de marcher dans sa direction pour lui dire en gros, est-ce que tu peux te pousser, t'es sur mon chemin. Et maintenant, la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous dites à vos équipes, j'ai une super idée, on va marcher vers l'ours. Alors ma situation elle est assez simple, hein, j'ai 3 personnes devant moi, je suis au milieu et j'ai 4 personnes derrière. Et donc, quelle est la bonne solution pour que tout le monde soit d'accord de le faire? Alors, on n'a pas de temps, je ne vais pas faire du suspense longtemps, parce que j'aurais pu dire aux 3 devant, bougez pas, ça va bien se passer. Alors, la seule solution de les faire bouger, c'est, et j'insiste sur l'ordre, c'est qu'avant, de leur parler, il fallait que je m'avance. Pour faire 2 choses. La première, en m'avançant, j'attirais l'attention sur moi et plus sur l'ours. Parce que jusque-là, les gens regardent l'ours, si je leur parle, ils ne m'écoutent pas. J'attire l'attention sur moi et en plus, je leur montre un petit peu quand même que si l'ours charge, je suis en première ligne. Donc, il y a une forme d'exemplarité. À partir de là, je peux leur dire, venez derrière moi, levez les bras et sans faire de bruit, on va marcher vers l'ours. Je ne vous cache pas qu'au moment de commencer à marcher, j'ai commencé à regarder s'ils me suivaient. Mais ils l'ont fait. Et on a marché, l'ours, effectivement, un peu surpris sans doute. Je ne sais pas, je n'étais pas dans sa tête, mais en tout cas, il est parti. Ce que je viens de vous décrire, c'est la notion des intrants de confiance. Ces intrants de confiance, ils sont assez importants parce que la confiance dans le cerveau ne se situe pas dans les zones orales et linguistiques du cerveau. Ça se situe dans les zones visuelles. Ce que vous montrez donne l'envie d'agir. Ce que vous dites, ben vous le dites, puis ça ne va pas plus loin. Votre exemplarité en tant qu'élu, en tant qu'agent, en tant que responsable d'entreprise, quoi que ce soit, en tant que personne tout simplement, votre exemplarité fait la différence au moment où il faut agir pour le futur. Quand on entend des gens nous dire « Ouais, mais moi, je pollue quasiment pas, c'est les autres qui polluent plus. Moi, je suis à 1%, les autres, ils sont à 99%, toutes ces choses-là. » Il faut le balayer. Parce que même si ce n'est pas nous les pires, que ce soit dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos pays, chaque fois qu'on montre un exemple positif, on génère cet intrant d'envie dans le cerveau des autres pour les faire agir. Et c'est d'une profondeur absolue. Et quand vous regardez les pays qui vont bien aujourd'hui, c'est des pays où l'action motrice citoyenne est extrêmement développée. Agir ensemble, faire ensemble, construire des choses ensemble, se réunir dans la rue, se réunir en tant qu'immeuble, tout ça, c'est très fonctionnel. Donc là, je finis là-dessus, et ça, je suis désolé, c'est un petit peu de pub, mais c'est nécessaire aussi. On veut mettre tous nos élus dans notre chambre climatique, députés, sénateurs, présidents, candidats, municipales, toutes les personnes qui sont aujourd'hui en responsabilité politique, pour qu'ils prennent conscience de cette réalité et qu'ils prennent ensuite les décisions exemplaires nécessaires pour que notre futur soit possible. Donc, si vous voulez venir nous voir au Climate Sense et discuter avec nous de cette opération qui va durer pendant 2 ans, ce sera avec plaisir. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien, un peu financièrement, c'est vrai, mais aussi pour inciter vos maires, vos députés, vos sénateurs à venir nous voir. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 solutions pour le futur. Elon Musk vient de nous expliquer hier, dans une conférence, qu'il n'y avait aucun problème parce que sa technologie va tout résoudre. Vous pouvez y croire ou pas, c'est votre problème. D'autres gens pensent que c'est foutu parce que de toute façon, les choses sont déjà tellement emballées avec les 7 limites planétaires dépassées que de toute façon, c'est foutu. Moi, je pense qu'on doit raisonner un peu différemment et que si on est capable de créer coopération entre les humains, il n'y a pas grand-chose qui est impossible à la volonté de faire changer le futur. La coopération, ce n'est pas juste collaborer et faire ensemble, c'est avoir envie que toutes les personnes réunies réussissent ensemble. Et quand on a envie que tout le monde réussisse, quelle que soit son origine, sa vie, son histoire, sa couleur, son genre, son métier ou quoi que ce soit, eh ben on se donne un peu plus de chances de réussir notre futur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, comme je sais que les conférences s'enchaînent, on ne va pas pouvoir faire de questions-réponses, mais moi, je suis juste derrière au Climate Sense, le gros camion qui est derrière, et je vous accueille avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté, et bonne fin de salon.